Bretagne 5, écoutez la Bretagne. Lecture en liberté, Denis Flageul.
Bonsoir. Nous nous retrouvons donc pour la suite de ce roman de Michael McDowell, Blackwater. Dans l'église, on apporta de quoi manger à Elinor. Assise sur un banc, elle étudiait la disposition des enfants endormis dans le coin opposé. Le domestique s'était levé et rassemblé plus loin pour se laver et s'habiller, tant bien que mal. Sister était assise à côté d'Elinor et, d'un murmure, lui posait de temps à autre une question que suivait une réponse chuchotée. Caroline de Bordeneuve et Manda Turk s'étaient levées juste à temps pour voir Sister Casquet conduire une inconnue dans l'église. Passant leurs vêtements à la hâte, elles se précipitèrent dehors pour interroger Mary Love, qui les attendait de l'autre côté de l'une des remorques. Toutes les trois se lancèrent alors dans une discussion animée à propos de la couleur argileuse des cheveux d'Elinor Dammert et des circonstances surprenantes de son séjour à l'hôtel. La seule conclusion fut que ces circonstances étaient plus que surprenantes. Elles étaient franchement mystérieuses. Si seulement Oscar pouvait revenir pour qu'on lui pose une ou deux questions à propos de cette mademoiselle Elinor, dit Caroline de Bordeneuve, une femme imposante, au sourire timide. Oscar ne sait rien, fit Manda Turk, une femme encore plus imposante, dont le froncement de sourcils caractéristique n'avait rien de timide, lui. Mais comment le sais-tu ? S'étonna Caroline. Oscar l'a secouru à l'Osceola. Il l'a conduite en canot jusqu'à la terre ferme. Il a eu tout le temps de faire connaissance. Les hommes ne savent jamais quelles questions poser, déclara Manda. On n'apprendra rien de lui, n'est-ce pas, Mary Love ? Oh, j'en ai bien peur, même s'il s'agit de mon propre fils. Sister discute avec elle en ce moment. Peut-être qu'elle arrivera à lui soutirer quelque chose. Bray est de retour, dit Manda Turk, en pointant un doigt en direction de la forêt. Le soleil, à présent haut et chaud, tirait davantage de vapeur du sol détrempé. L'homme avait subitement émergé de la brume, balançant une petite valise de sa main droite. C'est la tienne ? Demanda Caroline de Bordeneuve à Mary Love. Non, ça doit être à elle. C'est sa valise, Bray ? L'interpella Manda Turk d'une voix forte. Oh, que oui ! Lança Bray en s'approchant. Il savait qu'elle faisait référence à la femme repêchée à l'Osceola. Qu'est-ce qu'il y a dedans ? Demanda Caroline. Bon, je sais pas, je l'ai pas ouverte, répondit-il, avant de marquer une pause. Elle est dans l'église ? Elle prend son petit déjeuner avec Sister, répondit Mary Love. Il y avait deux bagages, fit Bray, en arrivant à leur niveau. Où est l'autre ? Demanda Caroline. Tu l'as laissé dans le canot ? Ajouta Manda. Bon, je sais pas où il est. Tu l'as perdu ? S'écria Mary Love, cette fille n'avait que deux bagages en tout et pour tout, et tu en as perdu un, Bray. Elle va être folle de rage contre toi, renchérit Manda Turk. Elle va t'arracher les yeux. Bray frémit comme s'il craignait qu'Elinor ne mette réellement cette menace à exécution. Bon, je sais pas où est ce truc, dame Turk. Monsieur Oscar et moi, on a ramené cette dame dans le canot et elle a dit qu'elle avait deux valises sous la fenêtre. J'ai conduit la dame et M. Oscar jusqu'ici, puis M. Oscar me dit « Bray, retourne-y ». C'est donc ce que j'ai fait. Et quand j'ai passé la tête par la fenêtre, il n'y avait que celui-ci, juste un. Alors je me dis « Où c'est qu'il est passé, l'autre ?» aucune d'elles ne se risqua à répondre. Le domestique tendit la valise à Marie-Love. « Peut-être bien que quelque chose est sorti de l'eau, a mis sa main par la fenêtre et sentit qu'il y avait une valise et l'a prise avec lui. Oh, »« Il n'y a rien d'autre dans l'eau que des cadavres de poulets, » rétorqua Manda Turk avec mépris. « Je suis curieuse de savoir ce qu'il y a là-dedans, » dit Caroline, en pointant la valise. Marie-Love secoua la tête. « Bray, » poursuivit-elle, « va chez Madame Driver et trouve-toi quelque chose à manger. Je dirai à Mademoiselle Elinor que tu as fait de ton mieux. Oh, merci, Madame Casquet. Je veux surtout pas lui parler. » S'éloignant de l'arbre contre lequel il s'était adossé, Bray remonta le chemin à la hâte. Les trois femmes baissèrent les yeux sur l'unique bagage d'Elinor Damert, une valise en cuir noir, avec des lanières courant tout autour. Puis elles se dirigèrent vers l'église. Bien entendu, ça ne fit ni chaud ni froid à Mademoiselle Damert que l'une de ses valises soit perdue. Elle n'incrimina pas Bray, ne sous-entendit pas qu'il ait pu la laisser tomber dans l'eau et mentit ensuite. Ne soupçonna pas quelqu'un d'être passé après eux en canot pour la lui voler et ne se désola pas pour la perte de la moitié du peu qu'elle avait sur cette terre. Ah, mes livres étaient dedans, se contenta-t-elle de dire d'un ton presque enjoué, et mon diplôme d'enseignante et celui de Hunt Kingston, tout comme mon certificat de naissance. Il faudra que je demande des duplicata. Ce qui va prendre du temps, non ? Demanda-t-elle à Sister, qui lui confirma que ce serait le cas. « J'aimerais me laver et me changer, » annonça alors Elinor. « Il n'y a pas d'endroit pour ça ici, nous tirons de l'eau d'un affluent. »« Bien sûr, » répondit Elinor, comme si les méandres du cours d'eau n'avaient aucun secret pour elle. « L'affluent passe derrière l'église, » précisa Caroline de Bordeneuve, comme si Elinor avait demandé une précision, ce qu'elle aurait dû faire. « Impossible de le trouver à moins de savoir où regarder. » « Il n'a pas débordé ?» demanda plutôt Elinor. « Non, » répondit Annie Bell Driver. « Grâce au dénivelé, l'eau s'écoule directement vers Perdido. Ici, l'eau est pure et limpide. »« Bien, je vais donc aller me laver, » dit-elle en se levant. Sister lui aurait volontiers indiqué la direction, mais Elinor lui assura qu'elle serait capable de la trouver toute seule. Avançant silencieusement parmi les enfants assoupis, elle sortit par la porte de derrière, sa valise noire à la main. Manda, Marie-Love et Caroline fondirent sur Sister. « Qu'est-ce qu'elle a dit ?» demanda Manda en prenant la parole pour ses amis. « Rien, » répondit Sister, comprenant dans un sursaut de honte qu'elle avait failli à la mission que, de toute évidence, les trois femmes considéraient comme lui étant dévolue. Je lui ai parlé de l'école et de Perdido. Elle m'a posé des questions sur la crue et puis sur les scieries. Et qui était qui, enfin, vous voyez. D'accord, mais toi, mais qu'est-ce que tu lui as demandé ? Insista Caroline. Ben, je lui ai demandé si elle avait eu peur de se noyer. De se noyer ? S'exaspéra Marie-Love. Sister, tu n'es pas croyable. Se noyer dans l'océola, répondit Sister sur la défensive. Elle était assise à l'extrémité d'un banc et les trois femmes debout lui faisaient face. Elle a dit qu'elle n'avait pas eu peur, même pas un peu, et que jamais elle ne périrait noyée. « C'est tout ce que tu as trouvé sur elle !» s'écria Manda. « C'est tout ?» admit Sister en se raidissant. « Qu'est-ce que j'étais censé découvrir d'autre ? Personne ne m'a dit. » « Tu étais censé tout découvrir, » asséna sa mère. « Tu ne vois pas, Sister ?» dit Caroline de Bordeneuve, secouant lentement la tête. « Voir quoi ? Qu'il y a quelque chose d'étrange ? Quelque chose qui ne va pas du tout ?» ajouta Manda. « Non, je ne vois pas. »« Eh bien, tu devrais, » intervint Marie-Love. « Regarde ses cheveux. Tu as déjà vu des cheveux de cette couleur ?» On les croirait teints par la Perdido. Voilà ce que je vois, moi. » Annie Bell Driver n'ignorait rien de ce qui se passait. Elle avait vu les trois femmes les plus riches de la ville entourer Bray et lui faire subir un interrogatoire au sujet du bagage qu'il portait. Puis elle les avait vues diriger leurs questions sur la pauvre et faible Sister. Elle connaissait la nature de ces questions. Pendant que Sister tentait en vain de justifier par un souci de discrétion le fait qu'elle n'ait rien appris de substantiel, elle se faufila à son tour par la porte de derrière. Guidée par un motif qui n'était pas aussi clair que la simple curiosité, elle descendit avec précaution la pente abrupte, couverte d'aiguilles de pin, s'agrippant d'un résineux à l'autre pour garder l'équilibre. Ici, la vapeur montait de partout, du sol, des broussailles, des branches. Et presque, eût-on dit, de la rivière elle-même. Là où se trouvaient les trois affluents, le courant était peu profond, clair et rapide, contrairement aux eaux de la Blackwater et de la Perdido, abyssales, sombres et puissantes. Il sinuait à travers la forêt, suivant un tracé qui semblait changer chaque année, déchirant le tapis d'aiguilles pour mettre à nu la couche de terre meuble qui se trouvait dessous, il creusait des cavités dans la roche et régurgitait sable et cailloux en minuscules îlots. Se tenant au bord, le cours d'eau était trop capricieux pour qu'une berge digne de ce nom puisse se former, Annibelle examinait la rive en amont et en aval. Une trentaine de mètres plus haut, l'affluent faisait un coude et un autre à une dizaine de mètres à l'opposé. Aucune trace de la jeune femme aux cheveux rouges. Annibelle hésitait entre remonter, redescendre le cours d'eau ou retourner à l'église afin de laisser son intimité à la jeune femme. Lors de ces 4 jours passés dans un hôtel à moitié inondé, elle n'avait pas dû avoir beaucoup d'occasion de se laver, sinon dans l'eau de la crue. Une solution qui était loin d'en être une, puisqu'elle salissait plus qu'elle ne nettoyait et était franchement insalubre. Annibelle se décida pour l'aval. Ce n'est qu'en passant le coude qu'elle aperçut la valise d'Elinor sur la rive opposée. Elle ne l'avait pas remarquée plus tôt car elle se fondait parfaitement dans la végétation luxuriante. Il lui vint soudain à l'esprit que la jeune femme, ayant pourtant survécu à l'inondation de la Perdido et de la Blackwater, avait pu se noyer dans ce minuscule affluent anonyme. Encore que pour cela, il aurait fallu trouver un endroit où l'eau soit assez profonde pour y plonger la tête, ce qui dans cette zone était plutôt rare. En fait, le cours d'eau était tellement sûr qu'Annibelle n'avait même jamais interdit aux enfants d'y jouer. Il était trop peu profond pour qu'ils puissent y perdre pied et trop rapide pour que les serpents ou les sangsues y élisent domicile. Mais si la valise se trouvait là, et qu'elle ne pouvait pas s'être noyée, alors où était-elle ?
Sensuelle, elle m'aime si fort. le blues en se mordant. Danser sur un tapis roulant. Longue et belle, c'est sensuel. Elle m'aime si fort, je cœur m'adore.
Lecture en liberté, Denis Flagel.
Blackwater, Michael McDowell. Descendant de deux pas en se retenant à la branche d'un pin, Adibel s'apprêtait à enjamber une petite mare boueuse lorsqu'elle se figea. Son pied retomba et s'enfonça dans la vase jusqu'à ce que la boue s'infiltre par les œillets de ses bottines. Sous l'eau, dans une petite fosse qui paraissait avoir été creusée pour son corps, Elinor Damert reposait, totalement nue, parfaitement immobile. Chacune de ses mains était agrippée à une touffe d'herbe aquatique. « Dieu tout-puissant !» s'exclama Annibelle. « Elle s'est noyée !» Elle regarda plus attentivement. Bien que l'eau soit limpide et seulement assez profonde pour immerger un corps, elle avait produit une sorte d'illusion d'optique. Vue à travers le courant, la peau de Mademoiselle Elinor paraissait différente, verdâtre, épaisse, presque comme si elle était faite d'une sorte de cuir. Alors que sa peau, Annibel l'avait bien remarqué auparavant, était d'une blancheur d'albâtre. De plus, alors que la femme pasteur scrutait la forme sous l'eau, le visage immergé parut subir une transformation pour se distordre. Ses traits, qui avaient été séduisants, fins et délicats, étaient à présent épais, aplatis et grossiers. La bouche s'étirait démesurément, au point que les lèvres avaient disparu. Sous leurs paupières closes, les yeux étaient pareils à de larges dômes circulaires. Les paupières elles-mêmes étaient presque translucides et la pupille barrait d'une fente noire l'énorme œil tel un équateur qu'on aurait dessiné à la verticale sur un globe terrestre. Elle n'était pas morte. Les paupières fines et étirées qui recouvraient les dômes protubérants s'écartèrent lentement, et deux yeux immenses, de la taille d'œufs de poule, pensa follement Annibel, se posèrent depuis le fond de l'eau sur ceux de la femme pasteur. Elle eut un geste de recul et heurta un tronc. La branche au-dessus de sa tête à laquelle elle se retenait cassa. Elinor émergea. La transformation physique qu'elle semblait avoir subie dans le courant parut se maintenir un instant et Annibelle se retrouva à fixer une vaste créature gris-vert informe dotée d'un corps mou et d'une tête énorme aux yeux froids et perçants. Les pupilles étaient aussi fines que des lignes, puis, avant même que l'eau n'ait commencé à goûter de son corps pour retourner à l'affluent, Elinor Damert se tenait devant elle, un sourire penaud et les joues rouges d'avoir été surprise ainsi dans le plus simple appareil. Annibelle en eut le souffle coupé. Sa tête se mit à tourner. « Je ne me sens pas très bien, » dit-elle en haletant. « Madame Driver !» s'écria Elinor. « Est-ce que ça va ?» Ses cheveux paraissaient avoir été rincés de leur bout. Ils étaient désormais d'un rouge sombre et intense, de la couleur d'un banc d'argile sous l'éclatant soleil qui suit un orage de juillet. Personne à Perdido ne connaissait rien qui soit plus rouge que ça. « Je vais bien ?» répondit faiblement Annibelle. « Mais, jeune fille, vous m'avez fait une peur bleue. Que faisiez-vous sous l'eau ?» « Oh !» dit Elinor d'une voix légère, chantante. « Après une crue, il n'y a pas de moyen plus efficace pour se laver. Croyez-moi, Madame Driver. » Elle fit un pas en direction de la rive où sa valise était posée. Et si Annibelle n'avait pas été prise d'un tel tournis, elle aurait pu constater que le pied soulevé hors de l'eau par Mademoiselle Elinor n'était pas aussi blanc et menu que celui qui reposait déjà sur le sable, mais paraissait totalement différent, large, plat, gris et comme palmé. Oh, c'était juste un effet de l'eau, pensa Annibelle en fermant très fort les yeux. Les eaux se retirent. James Casquet, l'oncle d'Oscar et beau-frère de Marylove, était un homme discret, sensible et délicat, que les tracas assaillaient facilement et durablement. Il était mince, osseux, disaient certains, doux et assez riche. Du moins selon les critères d'un comté déjà défavorisé au sein d'un État lui-même pauvre. Il était malheureux dans son mariage, mais au grand soulagement de Perdido, son épouse Geneviève vivait la majeure partie du temps à Nashville, auprès de sa sœur, mariée elle aussi. James avait une fille de 6 ans, Grace. Bien qu'il ait une femme et enfant, James avait pourtant la réputation d'être marqué du sceau de la féminité. Il vivait dans la maison que son père, Roland Casquet, avait fait bâtir en 1865. Cette demeure, l'une des premières à avoir été érigée à Perdido, était selon les standards actuels de taille modeste. Construite de plain pied, elle était uniquement composée de 2 salons, d'une salle à manger et de 3 chambres. La cuisine, à l'origine séparée du reste de la maison, y avait été rattachée par une longue annexe qui comprenait une nurserie, un atelier de couture et 2 salles de bain. Les larges pièces carrées à l'ancienne étaient dotées de hauts plafonds, de cheminées en briques et d'un lambris en bois sombre, mais en femme de goût, Elvenia Casquet, la mère de James, avait meublé chacune avec soin. À présent, il se demandait ce qu'il en restait après une semaine passée sous les eaux boueuses de la Perdido. Lorsque Bray lui avait fait traverser la ville en canot, il n'avait localisé sa maison qu'en voyant la demeure voisine de sa belle-sœur, qui avait 1 étage, et la cheminée en briques de la cuisine plus haute que celle des 2 salons. James, malgré l'amour qu'il portait au mobilier de sa mère, et de façon générale à tout ce qui lui avait appartenu de près ou de loin, ne s'était que peu inquiété pour le contenu de sa maison. Il n'avait fait que penser à la scierie, dont la fermeture, qu'elle soit temporaire ou définitive, allait avoir un impact sur la communauté tout entière. La scierie Casquet, dont il était propriétaire avec Marylove et qu'il dirigeait avec son neveu Oscar, employait 339 hommes et 22 femmes, blancs comme noirs, âgés de 7 à 81 ans. C'est de là un arrière-petit-fils et son arrière-grand-père dessinaient au pochoir le trèfle des casquets sur les planches des bois nobles de la société, le pacanier, le chêne, le cyprès et le cèdre. Inquiet pour l'avenir de ses employés si l'activité ne reprenait pas au plus vite, James Casquet s'était fait conduire à la scierie afin d'évaluer l'étendue des dégâts. Sa silhouette frêle le faisait passer pour un homme chétif, une impression accentuée par ses gestes lents et réfléchis autant que le permettait son corps enclin à la nervosité, qui n'était pas sans une certaine grâce nonchalante. Il n'avait en vérité jamais beaucoup fréquenté les bois leur appartenant et on le soupçonnait de ne pas connaître les arbres aussi bien qu'un casquet l'aurait dû. Chacun était au courant de son aversion pour les promenades en forêt, où il risquait de salir ses bottes, déchirer son pantalon sur les ronces ou croiser des serpents à sonnette. Néanmoins, il excellait dans le travail de bureau et n'avait pas son pareil pour rédiger d'avantageux contrats et d'habiles courriers. Lorsque la ville avait demandé à siéger à la législature d'État, James Casquet avait représenté Perdido face à la commission où, après un discours des plus convaincants, tous s'étaient étonnés qu'il n'ait jamais fait carrière en politique. Son inspection de la scierie lui révéla que les entrepôts étaient dans un état déplorable. Même ceux qui étaient restés fermés étaient fichus. Le bois avait gonflé et s'était déformé à cause de l'eau. Et les troncs seulement abrités avaient flotté et dérivé Dieu sait où. Des stocks, il ne restait rien. Les bureaux aussi étaient dévastés. Heureusement, James avait eu la présence d'esprit de charger deux remorques avec les dossiers en cours et certaines archives qu'il avait ensuite envoyées vers les hauteurs. Ces documents reposaient à présent sous le foin dans l'étable d'un cultivateur de pommes de terre. Mais les archives d'avant 1895 étaient définitivement perdues. Tom de Bordeneuve, lui, était dans une situation plus périlleuse, car il avait choisi de sauver son bois plutôt que ses papiers. Le bois était perdu, la grange dans laquelle il l'avait stocké ayant été emportée par la crue. Il ne restait désormais aucune trace de ses factures, de ses commandes, ni même des adresses de ses meilleurs clients. Après 2 heures à naviguer inutilement autour des bâtiments et à prodiguer des paroles de réconfort à Tom de Bordeneuve, qui examinait sa propre scierie voisine depuis un second petit canot, James se fit mener à sa maison, submergée, puis au chemin forestier qui conduisait à l'église Zion Gates. Bray, bien entendu, lui avait tout raconté de l'étrange apparition d'une jeune femme aux cheveux roux à l'hôtel Osceola, histoire dont lui avait déjà fait part son neveu. Aussi, James ne cachait-il pas sa curiosité à la perspective de la rencontrer. La crue étant le seul sujet de conversation ces derniers jours, il se réjouissait d'entendre quelque chose de nouveau et sans aucun rapport avec l'eau. Il savait que Mademoiselle Elinor avait passé la nuit à l'église. Bray lui ayant confié être allé récupérer un matelas supplémentaire chez Annibal Driver. James Casquet espérait qu'à son arrivée, Elinor serait assise sur le perron de Zion Gretz. Ça lui éviterait d'avoir à aller chercher Mary Love, Sister ou sa fille Grace à l'intérieur et de subtilement devoir les amener à lui représenter la jeune femme rescapée. Bray amarra le canot à la racine émergée d'un arbre désormais au niveau des flots. L'eau avait baissé au point qu'en débarquant sur la terre ferme, la maison de Mary Love était encore à portée de vue aux abords de la ville. Les deux hommes traversèrent ensuite d'un pas pressé la forêt humide et foisonnante. Après avoir gardé le silence pendant quelques minutes, Bray, qui suivait l'ornière laissée par une roue de chariot alors que James suivait l'autre, se risqua à conseiller à M. James que ce serait peut-être bien de laisser la dame tranquille. « Pourquoi tu dis ça ?» demanda James avec curiosité.
« Je dis ça parce que je sais ce que je dis. »«
Bray, » répondit James en haussant les épaules, « je ne comprends absolument rien à ce que tu racontes. »«
Mais moi je sais, Monsieur James !» s'écria Bray en se gardant cependant d'entrer dans les détails pour la simple et bonne raison qu'il n'en avait pas.
James ne comptait certainement pas lui en demander.
Aussi, Bray garda-t-il pour lui ses soupçons, non seulement parce qu'ils étaient vagues, mais également parce que si Elinor se révélait n'être rien d'autre que ce qu'elle prétendait, les retombées pourraient être fâcheuses pour lui. Comparée à toute l'eau glacée qui avait défilé sous la coque de son canot, la forêt semblait à Bray un lieu chaleureux, sec et sûr. James Casquet marchait le sourire aux lèvres, tournant parfois vivement la tête au champ d'une caille dans le vain espoir de l'apercevoir. « La v'là !» dit Bray, dans un murmure rauque, lorsqu'ils arrivèrent en vue de Sion Greitze. Elinor Damert était en effet assise sur les marches de l'église. Grace blottit sur les genoux, presque comme si la jeune femme avait attendu leur arrivée et avait accaparé la fille de James pour faciliter leur rencontre. Voilà donc pour ce soir la suite de ce roman Blackwater de Michael McDowell que nous retrouverons demain. Cette émission a été réalisée par Frédéric Guyon et vous pouvez la retrouver en podcast sur le site de Bretagne 5, bretagne5.fr. Bonsoir.
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.